Réplique, la République des lettres existe-t-elle encore ? Avec Régis Debray et Marc Fumaroli. Introduction de la République des Lettres, Marc Fumaroli définit son entreprise en ces termes. Me dégageant de l'actualité présente, sans pour autant l'ignorer, j'ai cherché à comprendre l'actualité disparue d'une société de savants solidaires où je me plaisais. C'est le même mot de dégagement que Régis Debray, à contre-courant de ses passions anciennes, et de l'idée que l'on persiste à se faire de lui, a choisi comme titre pour les deux volumes de réflexion et de rêverie qu'il a publiés, le premier en 2010, le second cette année même. Nous verrons dans notre discussion si ce goût partagé de l'écart ou du pas de côté annonce la reconstitution d'une République des lettres dans une France où les métaphores militaires de l'engagement et du combat ont longtemps dominé la scène intellectuelle. Mais en préalable, je voudrais demander à notre puits de science, Marc Fumaroli, de quand date l'expression « République des lettres » et quelle est sa signification originelle, Marc Fumaroli.
Merci, cher Alain Finkielkraut, de m'avoir invité avec mon ami Régis Debray. En fait, moi j'ai beaucoup souffert, je veux dire, quand je suis arrivé à Paris, de constater qu'il y avait une sorte de dictature qui est exercée par Jean-Paul Sartre et qui avait pour mot d'ordre, si j'ose dire, en résumant les choses, l'engagement.
Vous êtes arrivé à Paris en quelle année ?
Autour de 58, 60.
C'était l'époque, en effet, où Sartre régnait, oui.
Et cette espèce d'empire sartrien était un empire pénible, parce que... Et il n'avait pour opposant que des désengagés de droite, qui étaient les hussards, avec leurs revues, avec... Et cet hebdomadaire très beau d'ailleurs, très, très regretté, qui s'appelait Art. Et puis moi-même, je me sentais depuis longtemps appelé à m'intéresser aux érudits, aux savants, à ceux qui consacrent le meilleur de leur temps à faire des recherches sur le lointain passé. Et je me suis dit, entre les deux, eh bien, choisissons définitivement les clandestins, si j'ose dire, contre ceux qui tiennent le devant de la scène. Et j'ai découvert, en lisant la correspondance de Pétrarque, à quel point cet homme, que l'on connaît plutôt comme poète, le fameux poète de l'Or, avait été aussi un érudit, quelqu'un qui s'était mis dans la tête, au spectacle des ruines de Rome, que le christianisme était certainement la religion des modernes et la vraie religion, mais qu'il avait souffert d'arriver ou de triompher au moment de la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire que l'Europe était, à son époque, à la fois bénie d'avoir une religion aussi neuve et profonde que le christianisme, et en même temps d'être dépouillée d'une tradition directe avec la civilisation gréco-romaine. Et il a pensé qu'on pouvait peut-être ajuster les deux, mais à ce moment-là, il fallait reconstituer cette civilisation, retrouver ces livres disparus dans l'incendie des bibliothèques, et constituer une sorte de clergé de la romanité hellénistique. Et donc, il a trouvé des manuscrits inédits de Cicéron, il a trouvé toutes sortes de textes, il a été le premier chasseur de manuscrits antiques dans les bibliothèques monastiques. Et il a formé des disciples. Et c'est à la deuxième ou troisième génération de ses disciples qui commençait déjà à couvrir toute l'Italie, Venise, Rome, Naples, et qui était sur le point de s'étendre en Europe. Déjà, Pétrarque avait eu un petit accrochage avec les théologiens français, mais en marquant bien qu'il attendait de la France qu'elle vienne, au fond, à son secours. Et en 1417, au moment du concile de Constance, qui se proposait de mettre fin à ce qu'on a appelé le grand schisme de l'Église, le pape, un des antipapes qui se disputait la couronne de Saint-Pierre, était là, Jean XXIII, il s'appelait. Il était accompagné des meilleurs humanistes, des meilleurs disciples de Pétrarque, qui étaient dans son administration, si je veux dire, qui étaient des secrétaires de la gouvernement pontifical. Malheureusement, le concile a considéré qu'il était un antipape, et donc il a dû partir. Mais les gens qui l'avaient accompagné, Poggio Pradolini, etc., étaient restés sur place. Et ils ont fait des explorations dans les couvents suisse-allemands. Et ils ont trouvé, en particulier Poggio, a trouvé le manuscrit complet de l'institution oratoire de Catilia. Il a trouvé un certain nombre de discours de Cicéron qui avaient disparu de l'horizon et de la mémoire. Et il a envoyé des copies de ces textes qu'il venait de découvrir à Florence. Et là, un jeune vénitien, Francesco Barbaro, qui achevait ses études auprès de ses nouveaux maîtres, si j'ose dire, répond à Poggio, en lui disant: vous êtes un des héros de la République des Lettres. Tout le monde vous sent dévoué au bien public. Et le bien public, c'est le fond gréco-latin à partir duquel la civilisation européenne va prendre un nouvel essor. Et voilà comment le mot est entré en latin, res publica literaria, et ensuite dans chacune des grandes langues européennes. Et au fond, c'est Pétrarque qui a conçu cette notion d'un clergé laïque, en quelque sorte, qui se consacre à faire revenir le fond philosophique, scientifique, littéraire, poétique de l'Antiquité pour créer une sorte d'émulation en Europe vers une civilisation qui sera à la fois dans la continuité de l'Europe gréco-latine, mais en même temps avec une grande originalité, parce que c'était plutôt une idée d'émulation qu'une idée d'imitation.
Régis Debray.
Moi, j'écoute Marc Fumaroli avec beaucoup de plaisir. D'abord parce qu'il évoque le journal Art, qui est celui dans lequel j'ai publié mon premier article.
Ah oui?
Oui, je devais avoir 16 ou 17 ans. C'était sur David Herbert Lawrence. Non, T.E., but David Herbert. Madame Chatterley. Et ensuite, parce qu'il évoque Pétrarque. Alors, Pétrarque, c'est très intéressant, parce que c'est l'exemple même du novateur rétrograde, c'est-à-dire de celui qui, devant son temps, en reculant. Pétrarque, pour moi, c'est l'homme qui a inventé la modernité. Pourquoi ? Parce qu'il est monté sur le Mont Ventoux. C'est-à-dire cette idée qu'une montagne doit être escaladée et non pas contemplée. C'était déjà, je dirais, l'intrusion un peu du faustien, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la nature exige d'être, en tout cas, connue, mais mieux encore, dominée. Or, c'est ce même homme, dont je crois que c'est Spengler qui dit qu'il ouvre la modernité, je crois qu'il a tout à fait... C'est ce même homme qui, je dirais, invente le moderne en se tournant vers l'antique. C'est en quoi je peux l'appeler le novateur rétrograde. Bon. Donc, le nostalgique de progrès, si vous voulez. Ce qui est d'ailleurs la condition du révolutionnaire, toujours et partout. Et là, donc, ce qui s'affirme à travers ce que Marc Fumaroli appelle la République des Lettres, c'est la fausseté de la célèbre remarque de Hegel. Nul ne peut sauter par-dessus son temps. Eh bien, si, la République des Lettres fait profession de sauter par-dessus son temps. C'est-à-dire soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Oui, le problème
pour
aujourd'hui,
Hegel, c'est qu'on ne peut pas aller, on ne peut pas, prédire l'avenir.
On est prisonnier de sa situation historique. C'est dans ce sens que Hegel l'entend. Or, Pétrarque a devancé sa situation se tournant vers ses arrières gréco-latins. Ce qui m'amène à une réflexion un peu, pour le coup nostalgique, c'est qu'au fond, ce qui caractérise la République des Lettres, c'est son pouvoir de se désemboîter de l'actualité. C'est-à-dire de s'émanciper, en quelque sorte, du dictat politique de la situation où elle est. Et là, je crois que c'est ce caractère un peu autarcique ou intempestif de ce réseau de grands esprits par rapport, je dirais, aux pressions temporelles immédiates qui me semble être aujourd'hui pour le moins en crise. C'est-à-dire que, comme vous le savez, lorsqu'un auteur aujourd'hui est interviewé, parce qu'il n'y a plus aujourd'hui d'auteur qui ne soit interviewé, puisque c'est l'aura de l'individu qui l'emporte sur l'aura du texte, il est tout de suite interrogé par les journalistes sur l'actualité, sur ce qu'ils pensent de M. Hollande, de Mme Taubira, d'Obama, etc. Donc, en quelque sorte, les citoyens de la République des Lettres se voient obligatoirement rabattus sur l'immédiateté, sur l'anecdotique, sur le politique. Et là, je pense que c'est vraiment un danger pour la République des Lettres, c'est la perte de son autonomie. Parce qu'enfin, qui dit République dit souveraineté.
Je ferai remarquer aussi.
Marc Maroli, puis j'interviendrai ensuite.
De même que l'imprimerie, qui a joué un rôle capital dans les guerres de religion, comme vous le savez, puisque c'est, si j'ose dire, à cause du fait que la Bible a pu se vendre à bon marché, que les réformateurs aient pu fonder leur restauration de l'Église primitive sur la lecture très généralisée de la Bible. De même, en matière de journalisme, les premiers journaux ont été consacré à des recensions de livres savants. Un des premiers journaux de l'Europe, c'est le Journal des Savants. Et ce journal, évidemment, ne donnait de compte-rendu que de livres difficiles. Et jusqu'au XVIIIe siècle, on peut dire que les grands journaux internationaux, ceux qu'on devait lire, étaient rédigés sans doute dans les langues modernes, mais elles donnaient des comptes rendus de livres qui étaient souvent rédigés en latin ou qui touchaient à des textes grecs.
Et les premiers livres imprimés sont théologiques ou ecclésiastiques.
Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, la République des Lettres a résisté à ce qu'on pourrait appeler la sécularisation, si vous voulez dire, du savoir, ou à une sorte de vulgarisation générale. Et d'autre part, il me semble que vous avez souligné très bien cette volonté de prendre de l'éloignement vis-à-vis du présent pour pouvoir agir sur lui, parce qu'au fond, il n'était pas si désintéressé que cela. Il songeait plutôt à corriger un certain nombre d'erreurs en prenant l'Antiquité comme point d'appui critique de ce qui se passait. Mais il y a aussi le fait qu'ils vivaient tous dans des régimes assez sévères, qui avaient le souci de censurer ce qui pouvait les gêner, et ils se sont arrangés pour à la fois être dans les faveurs des pouvoirs, la papauté, le roi de France, François Ier, Henri VIII, etc. Et en même temps, de garder vis-à-vis de ces pouvoirs une marge de sécurité intérieure et une solidarité avec des collègues en péril ou en tout cas exposés pour essayer de les préserver de l'intervention dangereuse des États et de leur censure.
Un pied dans l'actuel et un pied dans l'inactuel. C'est la condition du moine laïque. contrairement exactement. Aux moines tout court,
exactement.
Qui a les deux pieds dans l'inactuel.
Et vous avez raison de dire que ces premiers clercs de la République des Lettres se concevaient comme une variante du moine savant médiéval, hein, de ceux dont dont Le Goff a dit qu'ils étaient les intellectuels.
Les premiers intellectuels.
Alors justement, les premiers intellectuels. Régis Debray, vous dites aujourd'hui que nous vivons sous le régime de l'immédiateté, ce qui tend à dissoudre toute République des Lettres, mais cette République des Lettres n'a-t-elle pas été aussi vidée de l'intérieur par les intellectuels eux-mêmes, dans la mesure où ceux-ci ont considéré qu'il n'y avait pas de véritable autonomie de la culture. La culture a été perçue, et moi j'ai vécu aussi dans ce climat, comme une province de la politique, le tout dans le grand englobant de l'histoire, vous citiez Hegel. Voilà, nous sommes dans une histoire, cette histoire est une histoire de combat, une histoire de lutte, placée sous l'égide du chiffre 2, et la culture n'échappe pas à cette situation. C'est un des aspects, une des composantes de cette lutte qui doit être menée sur tous les terrains, entre les progressistes et les réactionnaires. D'ailleurs, vous y faites allusion dans un de vos deux volumes de Dégagement, en disant que vous n'imaginiez pas d'aller à une conférence de Raymond Aron. L'idée d'un dialogue entre Sartre et Aron vous paraissait absolument saugrenue. Donc ça veut dire que vraiment... Ma vision du monde a changé quand j'ai lu l'article de Kundera, Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale, puisqu'il était évidemment question de l'Europe centrale, mais de l'Europe tout court, dont il nous disait que, effectivement, à l'aube des temps modernes, elle avait fait de la culture et non plus de la religion la valeur suprême, et que la culture peut-être aujourd'hui cédait la place. Tout d'un coup, la culture acquérait à nouveau cette autonomie qui, pour nous, vivant sous la fascination même de la figure de l'intellectuel, n'existait pas. Et donc, si on demande aux intellectuels de se prononcer presque exclusivement sur l'actualité, c'est aussi en vertu d'une habitude qu'ils ont prise avant l'irruption du règne médiatique. Régis Debray.
Oui, vous avez raison d'employer le mot intellectuel qui, en quelque sorte, va casser la baraque, dans les deux sens du mot.
Et pourquoi ? Et qui est un grand anachronisme.
Bien entendu.
À mon avis,
Je vais le justifier.
Le médiéviste, Le Goff, a commis une grave erreur.
Bien entendu. Le substantif intellectuel date évidemment de la fin du 19e siècle. Mais qu'est-ce que j'entends par intellectuel et qu'est-ce qui le différencie de l'écrivain ? C'est le projet d'influence. Le projet d'influence sur l'opinion de son temps et par là même sur les gouvernements, ça le lie évidemment tout de suite à l'actualité, ça en fait le successeur, non pas du moine, mais du prédicateur, c'est-à-dire du prêtre.
C'est juste, oui.
Et donc, son but ne va pas être de plaire, ou même de réfléchir, mais d'instruire, c'est-à-dire en tout cas de rayonner, d'influencer, de montrer une emprise sur les mentalités de son époque. Et donc c'est vrai que l'intellectuel va politiser à outrance la vie culturelle et en quelque sorte mettre au second rang à la fois le plaisir littéraire et je dirais la science, c'est-à-dire l'érudition. Il y a donc là, je donne des verges pour être battu, mais il y a une lamentable démocratisation, s'il faut se dire, de la République des Lettres, parce que qui dit République,
des risques, là,
à partir d'un certain âge,
oui,
on s'en fiche un
vous,
peu.
Je pense avoir atteint. D'ailleurs.
On s'en fiche un peu. c'est-à-dire que la République s'est même fondée sur le mérite et la démocratie sur le nombre. Hein. Bon, c'est tout de même pas exactement la même chose. Et donc, c'est vrai que l'invention de l'intellectuel à la fin du 19e siècle. Qui est d'ailleurs une invention politique, qui est heureuse par certains côtés, mais qui est devenue malheureuse, me semble-t-il, aujourd'hui.
Pompéi l'a vu, d'ailleurs.
Pardon.
Peggy l'a vu.
Peggy l'a vu très bien. Donc c'est vrai que là, on a eu un déraillement, si vous voulez, de la tradition littéraire ou littérale, en tout cas de la République des Lettres.
Vous voulez ajouter quelque chose, Marc Fumaroli ?
Non, simplement, il me semble que c'est un point très important de reconnaître que le mot intellectuel nous masque justement cette République des Lettres. On croirait volontiers qu'ils étaient là déjà au Moyen-Âge, qu'au fond, Boileau était un intellectuel. Mais non, justement, Boileau n'était pas un intellectuel.
Qu'on ne peut pas dater...
C'était un écrivain qui avait, en quelque sorte, combattu pour un certain idéal de la littérature et qui n'a jamais cessé de le défendre à l'intérieur d'un régime avec lequel il avait passé une sorte de contrat qui le libérait à bien des égards.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que la figure de l'intellectuel apparaît, même si le nom est beaucoup plus tardif, au XVIIIe siècle avec la figure des philosophes des Lumières? C'est ce que montre d'ailleurs très bien Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. Les hommes de lettres qui sont en quelque sorte qui sont en charge de la politique, ou du moins qui estiment devoir intervenir dans le champ politique, qui considèrent que leur devoir est précisément de vulgariser la philosophie, de la rendre populaire. Là, il semble que c'est un moment charnière où à la République des Lettres succède malgré tout une autre figure.
Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, dans mon livre sur la République des Lettres, significativement, j'arrête mes recherches au XVIIIe siècle et je ne fais pas entrer dans le concept de République des Lettres même l'espèce de lobby que Voltaire a créé et qui est devenu effectivement très puissant.
Oui, mais il faut bien voir là que
Régis Debray,
les gens d'études et de savoir au XVIIIe siècle viennent remplir un vide. C'est le discrédit des autorités politiques et religieuses qui va susciter cette sorte d'autorité alternative ou substitutive qui est celle des hommes de lettres. C'est le moment où, disons, l'homme de lettres se sent investi, non pas d'un sacerdoce ou d'un métier comme Boileau, mais d'une mission. Oui. Sa mission étant de régénérer l'humanité. Autrement dit, il y a un vide symbolique au XVIIIe qui est comblé par l'homme de lettres. Nous avons le même vide symbolique, mais il n'est plus comblé par l'homme de lettres, puisque, comme nous savons, il n'y a plus aucune autorité aujourd'hui en provenance de la chose écrite. L'autorité est donnée par l'image, essentiellement. Éventuellement par le son, c'est pour vous faire honneur, mon cher Alain.
Mais, en même temps, revenons donc à la République des Lettres originelle. Vous citez Marc Fumaroli, Erasme, ni la parenté ni la consanguinité ne joignent les âmes par des liens d'amitié plus étroits que ne le fait la communauté des études. Et le mot d'amitié est au cœur de la République des Lettres, ainsi d'ailleurs que la pratique de la conversation. Conversation à laquelle vous avez consacré de nombreuses études, Marc Fumaroli. Mais justement, l'idée d'amitié a été en fait anéantie par la vie intellectuelle, quand celle-ci s'est placée sous l'égide de la politique ou sous l'égide de l'histoire. Le XXe siècle, c'est le bûcher des amitiés. Aaron Sartre est un exemple parmi mille autres. Il y a aussi, évidemment, la querelle Sartre-Camus, mais c'est très intéressant. Sartre répond à Camus après que celui-ci a voulu répondre à l'article extrêmement violent que Francis Janson, dans Les Temps modernes, avait consacré à l'homme révolté. Je vous lis simplement les premières lignes. On n'entre pas dans le débat qui porte sur l'homme révolté. C'est autre chose. « Notre amitié n'était pas facile, mais je la regretterai. » Mon cher Camus, à cette époque, on utilisait le nom de famille. Hein. Voilà. C'est pas mon cher Albert, mon cher Camus. Alors je dis ça toujours avec une grande émotion. Notre amitié n'était pas facile, mais je la regretterai. Si vous la rompez aujourd'hui, c'est sans doute qu'elle devait se rompre. Beaucoup de choses nous rapprochaient, peu nous séparaient, mais ce peu était encore trop. L'amitié, elle aussi, tend à devenir totalitaire. Et il dit, il faut encore en tout ou la brouille. Effectivement, nous avons vécu dans cette période-là, tout le XXe siècle, et je suis pas sûr que le début du XXIe ait vraiment changé les choses. Donc, il y avait quelque chose au cœur de la République des Lettres, qui était l'amitié, et la politisation de la vie intellectuelle a mis fin à cette amitié entre, justement, les membres de cette République. Régis Debray.
Permettez au médiologue de pointer le museau. L'amitié, un médium, c'est la lettre, la correspondance. Et Marc Fumaroli insiste beaucoup sur ce point. Et une amitié vraie doit savoir rester à la fois expansive et confidentielle. Ce que la lettre privée permet. Ce qu'aujourd'hui...
Le mot privé est très important. L'amitié est une passion privée.
Est une passion privée. Or, aujourd'hui, les protocoles de la correspondance sont remplacés par les protocoles de la publication, ne serait-ce que par l'écran numérique. Quand vous faites un tweet, ce n'est plus de la correspondance, ce n'est plus privé. Ça circule partout, n'est-ce pas ? Et donc, pour qu'il y ait amitié, il faut qu'il y ait échange, échange sur papier, dans le secret de la correspondance, serment tombeau, disait Proust à la fin d'une lettre, serment tombeau, c'est-à-dire on n'en parle pas. Mais pour qu'il y ait correspondance, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des postes. Il faut qu'il y ait un service postal.
Tout à fait.
Et pour qu'il y ait un service postal, il faut qu'il y ait un État, une puissance publique, c'est-à-dire qu'il fasse des chemins pavés avec des relais de poste. Et un maréchal Ferrand, ici et là. Donc, pour qu'il y ait du privé, il faut aussi qu'il y ait du public, si j'ose dire. Mm-hmm. Et d'ailleurs, à la fin de l'Empire romain et jusqu'à la Renaissance, la correspondance privée s'efface. Mm-hmm. Pourquoi elle s'efface ? Parce qu'il n'y a plus de route. Pourquoi il n'y a plus de route ? Parce qu'il n'y a plus d'État. Donc, il me semble là que le téléphone et le SMS sont des grands ennemis de l'amitié. Que l'amitié a besoin de recul, de temps, d'attention. Et c'est ce manque de temps qui nous fait aujourd'hui échanger des mots brefs, soit téléphonique, soit numérique. Et il y a là quelque chose qui a une ressource littéraire considérable.
Oui, mais quand même, Régis Debray...
Qui a permis, notamment le roman par lettre. C'est vrai que les femmes sont plus portées à l'échange de lettres, Madame de Sévigné étant faisant parabole ici. Mais les romans par lettre du 18e, c'est tout de même des romans féminins. C'est... disons, un petit diverticule, une petite tentacule de la République des Lettres côté femmes.
Absolument.
Côté femmes.
C'est, et puis, elles ont joué en France un rôle capital. Ça, c'est vraiment la singularité française. Il y a eu, dès le XVIe siècle, dès la seconde moitié du XVIe siècle, en marge des guerres de religion, la reine Marguerite a créé autour d'elle un véritable cercle de savants, de poètes, d'érudits. Et au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on a une véritable dynastie de grandes dames qui ont une correspondance. Vous avez cité Madame de Sévigné. Au XVIIIe, vous avez Madame du Deffand, vous avez Madame de Tencin. Et Madame de Tencin écrit aussi, comme vous avez raison, des romans par lettres. C'est donc Madame de Staël sera une républicaine des lettres de première force. Elle éclate complètement parce que elle ose même entrer dans le domaine politique qui est devenu maintenant un champ ouvert depuis la Révolution française. Alors, je crois que vous avez raison. Il faut ajouter à ce cercle d'hommes un autre cercle, celui de femmes qui ne consacrent pas entièrement leur vie à la passion, mais qui sont capables d'amitié. Et qui sont capables, donc, d'entretenir un commerce de lettres désintéressé avec leurs amis.
Et permettez-moi une remarque intempestive, voire même désagréable. Madame de Staël était à Genève, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'elle s'était exilée. Ce qui me permet, enfin, si vous me permettez cette audace, de noter que la proclamation de la République en France a été contemporaine de l'abolition de la République des lettres. C'est embêtant pour un progressiste comme moi, enfin un progressiste, bon, le mot est un peu vulgaire, mais que je veux dire, sous la Révolution, on supprime et les salons,
absolument,
et l'aristocratie, et les académies, mmh, c'est-à-dire les deux piliers, les deux échafaudats de la République des lettres, et la République des lettres doit s'exiler. Ce qui ne sera pas mauvais pour elle, d'ailleurs, parce qu'elle connaîtra l'Europe, elle pourra voyager, parce que le voyage est également un moteur de la République des Lettres. Et donc, il est troublant de voir que, au fond, à part Chénier, qui reste en France pour son malheur, les tenants de la République des Lettres sont forcés de partir. Mmh. Qui, en Angleterre, en Amérique, comme Chateaubriand, en Allemagne, en Suisse. Donc, voilà, il y a une curieuse... Disons, la naissance politique de la République a été avec la Révolution française, a été, disons que les révolutions ne sont pas très bonnes pour les républiques des lettres.
Ben justement, donc, et je reviens au XXe siècle, donc c'est une période qui ne connaissait pas les tweets ou les amis de Facebook. C'est ça maintenant l'amitié. J'ai 1000, 10 000, 100 000 amis sur Facebook, etc. Et pourtant, c'était l'époque des ruptures, des exclusions, des exclusives. Je parlais tout à l'heure d'un véritable bûcher des amitiés. Mais là, peut-être faut-il citer à ce moment dans la discussion Pascal, parce qu'il me semble qu'il a fondé un peu philosophiquement cette république laïque, oui, des lettres, avec sa distinction des ordres, absolument, malgré tout, qui est une chose absolument magnifique. Hein. Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit. La grandeur des gens d'esprit est invisible au roi, au riche, au capitaine, à tous ces grands de chair. Bien. Voilà. Mais
c'est le sujet de mon livre sur La Fontaine.
Oui.
Le poète et le roi. C'est exactement.
Oui, c'est ça.
Exactement le thème,
oui,
du livre.
Oui. Et donc, mais précisément, cette distinction des ordres a été comme abolie avec l'émergence de ce grand concept d'histoire, l'histoire dans laquelle nous sommes engagés, embarqués, que nous le voulions ou non. L'engagement, même la théorie de l'engagement, même chez Sartre, découle de cette idée, mais de toute façon, nous n'avons pas le choix. Que nous, même si nous choisissons de ne pas nous engager, c'est une autre forme d'engagement. Et nous sommes engagés à tous les niveaux. Il y a un véritable nivellement des ordres qui se produit. Et dans un cas comme celui-là, l'idée d'une affinité particulière de gens qui auraient ce culte des grandeurs de l'esprit n'est plus possible. C'est pourquoi j'en reviens encore une fois à ce passage où vous avouez aller voir Aron, pour moi c'était impossible. Or, dans une république des lettres, Aron et Sartre se seraient parlé. Ils se sont parlé plus tard pour d'autres raisons, qui ont peut-être d'ailleurs à voir aussi avec la médiologie, ce grand moment humanitaire. Mais il n'empêche que Paix et guerre entre les nations est un livre qui n'est pas simplement le livre d'un libéral militant. Il y a beaucoup plus de profondeur là-dedans. Donc, quelque chose s'est perdu, malgré tout.
Oui, mais nous ne sommes plus en 1950. Nous ne sommes plus en 1950, mon cher Alain. Vous bataillez contre Sartre, et peut-être avec quelques raisons. Nous sommes en 2015.
Oui, c'est vrai.
Et en 2015, il n'y a plus les grands d'esprit face aux grands de chair. Parce que le verbe ne s'est pas fait chair, il s'est fait nombre. Aujourd'hui, nous vivons sous la loi du nombre, de la statistique, de la cote.
De la quantité.
De la quantité. Mmh. Autrement dit, et c'est là où, me semble-t-il, la République des lettres a été remplacée par la République du chiffre. Pas de chiffre, vous êtes mort. Et il y a eu tout de même, pour la République des lettres, une alliance au XVIe et au XVIIe avec l'aristocratie et avec la monarchie. Il y a eu une alliance au 19e, de la littérature avec le milieu grand bourgeois, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, la classe dirigeante fait alliance avec les économistes, les statisticiens et les financiers. C'est-à-dire, elle va quêter l'autorité tantôt du côté de l'image. Et c'est Marion Cotillard qui est porte-parole de la grande lutte pour le climat. Elle va, et tantôt, vers le sondage d'opinion, c'est-à-dire le pourcentage. Et les hommes du verbe, les hommes du mot, sont, si j'ose dire, squeezés.
Marginalisés,
et il y a un extraordinaire... une chute protocolaire, je dirais, de l'homme de langage, même à l'intérieur des arts, par rapport à la peinture, à l'architecture, à la sculpture, n'est-ce pas ? Il y a donc là, je dirais, un phénomène massif de civilisation fondé sur une rupture technologique, je dirais, qui est, après la monstrueuse invasion de l'homme par l'histoire, que vous mettez en question fort justement, nous assistons à la monstrueuse invasion de l'homme par le chiffre. Et ça, c'est tout de même très problématique pour la République.
La gouvernance des nombres, dit Alain Supiot. Hein.
Ou l'erreur de calcul, dis-je dans un petit...
Voilà. mais justement, là, peut-être...
Est-ce que vous êtes d'accord?
J'en suis vraiment d'accord. D'ailleurs, il y a un livre que moi, j'aime beaucoup... Je regrette qu'il soit moins, qu'il soit si peu connu. C'est le livre de René Guénon qui s'appelle « Le règne de la quantité ».
Ah oui.
Et je veux dire que c'est un livre prophétique. C'est une admirable prophétie de ce que nous vivons tous les jours.
Mais vous parliez de technologie, Régis Debray. Je citerai, mais très brièvement, Heidegger. L'époque moderne est celle où la science devient recherche, le chercheur lui-même technicien, et toutes les activités de l'esprit sont soumises à la loi de la spécialisation. Une figure qu'on invite beaucoup, et peut-être souvent à juste titre, justement, c'est l'expert. On demande de l'expertise, et parfois l'expertise, elle-même envahie par l'idéologie, dépouille les gens de leur propre expérience. Tout se passe dans votre tête, dit-elle, à coup de statistiques, justement, et de nombres. Mais pour en revenir à l'homme de lettres, voire à l'intellectuel, sa place est très difficile à tenir. Celui qui cherche justement à embrasser malgré tout la totalité de l'existence avec ses moyens, quand il le fait, on peut d'ailleurs l'accuser d'essayisme. Hein. Donc voilà, l'essai a une belle tradition. Ça a commencé à Montaigne, mais il y a eu au XXe siècle Valéry, Benjamin, Octavio Paz, Camus également quand même, qu'on peut citer dans cette liste glorieuse.
Celui que vous citiez tout à l'heure en conversation avec...
Camus ?
Oui.
Oui, c'est Camus, oui. Donc, tout cela, en effet, n'existe plus. Et cette spécialisation accélérée met en péril, elle aussi, la République des Lettres, ou rend peut-être sa reconstitution utopique, chimérique et impossible, Régis Debray.
Fragmentation technocratique des vues d'ensemble.
Voilà.
Mais si je peux
ajouter ça beaucoup mieux que moi.
Si j'ai un mot à ajouter à ce que vous venez de dire, avec qui je suis tout à fait d'accord, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans les milieux savants, les technologies actuelles, les technologies numériques, sont extrêmement bien vues. Parce que c'est vrai que elles aident l'érudit, elles aident surtout plus l'érudit spécialisé, plus les avantages de ces technologies sont évidentes. Seulement, on ne voit pas que ces mêmes technologies, si remarquables soient-elles, sont aussi les vecteurs de cette propagande djihadiste qui est soudain devenue si répandue, oui, comme par miracle. Oui. Et le miracle, c'est celui que nous célébrons ici comme un des grands progrès de l'esprit. Alors il y a là une sorte un moment difficile où les savants eux-mêmes sont pris au piège d'un instrument qui, en quelque sorte, est capable d'engendrer les véritables fossoyeurs de la civilisation.
Régis Debray.
Disons que l'imprimé a fait à la fois la guerre de religion en développant la libre interprétation sectaire, et elle a également, l'imprimer a également fait l'expansion du savoir. Il se passe le même phénomène aujourd'hui.
Un peu, oui. Avec une échelle vertigineuse.
Avec le numérique à une échelle vertigineuse, puisque il est évident que aujourd'hui, nous savons bien que les djihadistes sortent des facultés des sciences et des technologies et sont très forts en numérique. Hein. Bon, oui. Donc ça, nous abordons le temps de la religion sans culture. Et le numérique y contribue pas mal. Mais je voulais revenir à ce que vous disiez. C'est vrai que les littéraires sont très amis de l'écran numérique. Je constate que les mathématiciens restent amis du tableau noir et de la craie.
Oui, c'est vrai.
Quand vous rentrez dans une salle de maths sup, vous voyez un tableau noir, et quand vous rentrez dans une salle de Cagnes, vous voyez des étudiants derrière leur ordinateur. Parce qu'il y a donc des continuités, des pérennités. Je parlais l'autre jour avec Cédric Villani qui me vantait le tableau noir, puisque la craie suit le progrès de l'esprit, la lenteur du raisonnement. Elle a une flexibilité et, je dirais, une sensibilité.
Mais c'est du même ordre que pour l'écrivain qui n'a pas renoncé à écrire directement sur papier avec un stylo ou avec un bic. Il est bien évident que à partir du moment où on s'est donné la facilité de composer sur l'écran, on perd cette extraordinaire liberté de pouvoir travailler n'importe où, dans n'importe quelle condition, même en prison, simplement avec du papier, et puis de quoi écrire. Oui. Et là, il y a une liberté que nous sommes menacés de perdre, parce que nous ne pouvons pas emporter avec nous nos machines.
Ah, les gens les emportent maintenant un peu n'importe où, quand même. Peut-être pas en prison.
Mais encore, oui.
Mais justement, vous disiez, Régis Debray, les littéraires aiment ces machines, aiment le numérique. Alors, il y a quand même quelques exceptions, mais surtout, s'ils font cela, ils scient allègrement la branche sur laquelle ils sont assis, parce qu'on le voit très bien, les petites poussettes célébré par un philosophe pour lequel nous sommes trois grands papas ronchons, eh bien, ces petites poussettes, donc, chères à Michel Serres, elles communiquent tout le temps, mais justement, elles délaissent la fréquentation des textes pour la pratique frénétique du texto. Et ça veut dire que, bien sûr, la littérature s'éloigne. Et la littérature, c'était quand même une composante essentielle de la République des Lettres. J'ai sous les yeux l'interrogatoire d'Emmanuel Berle par Patrick Modiano, et il rappelle que dans Marianne, le Marianne qu'il avait créé, eh bien la littérature était la valeur suprême, et pourtant la politique était omniprésente. Il n'empêche, les lecteurs achetaient Marianne pour lire le nouveau roman de Simenon ou de Colette. J'ai publié dans Marianne des romans de Colette, Duhamel, Mauroy, Simenon, Morand, Martin Dugas, Giraudoux. Le facteur sonne toujours deux fois, de James Quin, etc., etc. C'est inconcevable aujourd'hui, et quand les petites poussettes vont devenir grandes, ce sera totalement terminé, Régis Debray.
Vous avez raison, Alain, d'évoquer petites poussettes, parce qu'on ne peut pas se séparer sans d'abord évoquer la fin du terreau nourricier de la République des Lettres, qui est l'école. Tout de même. Il faut tout de même commencer par là, puisque tout commence par là. Nous savons bien que toute écriture est une réécriture, qu'un livre répond à d'autres livres, et donc la lente disparition de l'enseignement littéraire et des humanités dans la formation des esprits n'est tout de même pas pour rien dans le formidable rétrécissement du continent littéraire. La littérature respire mal. Et elle respire mal d'abord à l'école, où chacun connaît la réduction des horaires d'enseignement du français. Donc il y a là quelque chose de très angoissant, qui est précisément le déracinement. Dans la mesure où la racine est antique, et notamment dans les langues dites mortes, on assiste mais également dans la tradition littéraire, on assiste, à quelque chose qui ne va pas aider à reverdir le grand arbre des lettres, puisque la racine même est asséchée dès l'école primaire. Et là-dessus, je crois, mon cher Alain, vous avez raison de vous battre, car nous avons aujourd'hui une école qui se destine à communiquer, non pas à transmettre. La communication étant faire circuler l'information dans l'espace, la transmission, c'est faire circuler l'information dans le temps, dans le long du temps. Et ça, évidemment, c'est ce que permet le formidable voyage dans le temps que la littérature nous offre à tout instant.
Mais l'école...
Marc Fumaroli.
L'école devrait être ce que la République des Lettres était pour les adultes, c'est-à-dire un moment de décalage, un moment d'éloignement pour pouvoir mieux revenir, lorsqu'on est adulte, sur le monde dans lequel on entre. Or, de plus en plus, on a conçu l'école comme une tautologie. C'est-à-dire, l'école doit apprendre ce que tout le monde apprend de manière presque spontanée. Je vois maintenant des enfants de 2-3 ans qui se promènent avec des petites machines. Ils sont très à l'aise avec. Or, à l'école, on va leur apprendre à se servir de ces petites machines. Et pendant ce temps, on ne leur apprendra pas l'orthographe, on ne leur apprendra pas à écrire même, puisqu'il est question de supprimer toute forme d'écriture à la main et être remplacée par les écrans.
Oui, les digital natives, comme on dit, ne savent plus écrire des lettres.
Mais d'ailleurs, aux États-Unis,
on supprime tout rapport au papier, à l'encre. Et là, évidemment, on forme des gens qui sont complètement prisonniers d'un univers dont ils ne peuvent pas trouver le point d'appui nécessaire pour s'en détacher et le regarder avec stupeur ou avec intérêt, mais enfin, en tout cas, le regarder de l'extérieur.
En même temps, c'est une prison étrange puisque c'est une prison planétaire. Ouais, on est hors sol, donc on ne peut pas avoir le sentiment d'être en prison. On a le sentiment, au contraire, de pouvoir traverser toutes les frontières. Oui. D'où l'euphorie que cela provoque. Mais à vous écouter tous les deux, je pensais encore une fois à Hegel, mais à un autre Hegel. Hegel, professeur de lycée, directeur de lycée, qui dans un de ses discours avait dit, je crois, je cite de mémoire, que l'enfant tel Robinson se représente comme une chance, la possibilité de quitter son pays natal et d'aller sur une île lointaine. Hein? L'île lointaine étant celle des humanités, justement. Camus, encore une fois, mais le Camus du premier homme, qui dans son hommage à son instituteur, en fait, donc Monsieur Germain, disait que l'école, pour lui, c'était l'exotisme. Quand on lui faisait lire Dorgelès, l'exotisme pour lui, c'était la neige. C'était le paysage enneigé. Mais à plusieurs reprises, il utilise ce terme, l'exotisme que représente la littérature. Mais le paradoxe de notre univers, c'est que la planétarisation, précisément, supprime l'exotisme, supprime le dépaysement. Régis Debray.
Mais là, vous évoquez une question douloureuse, c'est que peut-on être à la fois à l'espace et au temps ? Aujourd'hui, l'ubiquité que nous avons gagnée a pour rançon la perte de la continuité, c'est-à-dire l'instantanéité. Et donc, nous sommes de plus en plus forts pour maîtriser l'espace, y compris intersidéral, et de moins en moins forts pour maîtriser le temps, et notamment la longue durée. Il y a là quelque chose d'angoissant, c'est vrai. Ce qui ne veut pas dire d'abord qu'on soit très fort en géographie, mais on a la capacité d'être ici et là en même temps. Et en fait, pratiquer la littérature, c'est être à la fois maintenant et jadis, oui, éventuellement maintenant et demain. En tout cas, d'être à deux moments différents. Et là, je pense qu'il y a une déperdition de sens et de vie, finalement.
Mais ces lieux que l'on peut atteindre si facilement, ils finissent par se ressembler tous. Ce qui fait que même vis-à-vis de l'espace, vous n'avez pas le décalage nécessaire pour même, je dirais même pas pour comprendre, mais pour jouir des lieux où on en arrive, parce qu'ils sont différents de ceux que l'on a connus. Tandis que là, je dois dire qu'aller à Singapour ou à Shanghai, ça ne fait pas une grande différence. Ce sont les mêmes les mêmes tours, c'est la même monotonie, c'est la même massification. Et il me semble que là, nous devons jouer justement un rôle de contrepoids. Et je crois que votre émission, puisque nous sommes dans la célébration de votre 30e anniversaire, a été depuis très de longues années un des contrepoids dont nous avons besoin. Et je suis ravi que maintenant, un homme de gauche comme vous, avec un homme soi-disant de droite comme moi, nous nous retrouvions justement dans l'esprit de contrepoids.
Alors, justement, je poserai une dernière question. Sur la fragilité de ce « nous ».
Il n'est pas fragile, le « nous » que nous formons, non, Marolier, nous, et moi, je m'excuse.
Mais justement, entre vous, mais je veux dire par là, parce que je pense à la radicalisation de certains discours politiques, l'antifascisme qui renaît, les listes noires, etc. Je me pose la question à moi-même et je vous la pose. Est-il possible, pour préserver cette République des lettres, de surmonter les désaccords politiques qui peuvent parfois nous séparer? Est-ce que vous y réussissez, ça, Régis de Brecht?
Évidemment. Ah bon. Je veux dire, s'il n'y a plus cette possibilité,
ah bon,
alors c'est la barbarie.
Soyons
francs. Non. Je n'ai pas les mêmes opinions politiques que Marc Fumaroli, mais Marc Fumaroli est un père pour moi, P-A-I-R, P-A-I-R. Rassurez-vous.
Je suis rassuré.
Je dirais que, d'abord personnellement, moi je n'ai pas les goûts correspondants à mes opinions. Hein. Bon.
Oui, ça vous montre très bien dans les problèmes de dégagement, d'ailleurs.
Je n'ai pas toujours les idées de mes amis politiques, bien sûr, et j'ai parfois les goûts de mes adversaires politiques. En tout cas, on s'en fiche de tout ça. On se fiche des étiquettes.
Oui.
Et on essaye, je dirais, de trouver des moyens de s'augmenter en fréquentant des gens qui ne pensent pas comme nous.
Oui, mais
c'est
exactement
fondamental.
Mais, nous pouvons ne pas penser la même chose en matière politique, mais sur les questions fondamentales, nous sommes profondément d'accord.
Complètement d'accord.
C'est le fondement qui compte.
Complètement d'accord.
Ce n'est pas les querelles d'actualité.
Mais une dernière question, il n'y a pas des événements particuliers, des situations qui peuvent mettre le feu aux poudres? Je veux dire, vous n'avez certainement pas envie de parler avec moi de la question du Moyen-Orient, vous me supposez des opinions qui ne sont pas forcément les miennes. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça en vous-même, cette espèce de démon, je parle pour moi aussi, ce démon de la politique qui peut soudain tout détruire?
Non, parce que la République des lettres me rappelle à mes devoirs d'inactualité.
Ah bah écoutez, on terminera là-dessus parce que c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup. Alors je rappelle quand même les titres de vos derniers livres. Régis Debray, un candide à la fenêtre, Dégagement 2 aux éditions Gallimard, et La République des lettres de Marc Fumaroli, publié également chez Gallimard.
Tous les deux livres sont sous le signe du désengagement.
Voilà. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site republiquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Le féminisme aujourd'hui. Mes invités seront Caroline Fourest et Claude Habib.